attaquer.
Bien, alors on va attaquer la section suivante de notre étude dans les actes. Nous sommes donc au 8e chapitre et on va démarrer au verset 14 jusqu'à 25, donc jusqu'à la fin de cette assez longue péricope. Au sujet de ce qui se passe en Samarie, voilà, voilà. Alors, je ne sais pas si une âme charitable veut faire la lecture. On peut même la faire en deux parties, s'il fallait.
Les apôtres, qui étaient à Jérusalem, apprirent que les habitants de la Samarie avaient reçu la parole de Dieu. Ils leur envoyèrent alors Pierre et Jean. Quand ceux-ci arrivèrent en Samarie, ils prièrent pour les croyants, afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. En effet, le Saint-Esprit n'était pas encore descendu sur chacun d'eux, sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean posèrent les mains sur eux et ils reçurent le Saint-Esprit. Quand Simon vit que le Saint-Esprit était donné aux croyants, lorsque les apôtres posaient les mains sur eux, il offrit de l'argent à Pierre et Jean en disant « Accordez-moi aussi ce pouvoir » afin que ceux sur qui je poserai les mains reçoivent le Saint-Esprit. Mais Pierre lui répondit, « Que ton argent soit détruit avec toi, puisque tu as pensé que le don de Dieu peut s'acheter avec de l'argent. Tu n'as aucune part ni aucun droit à cette affaire, car ton cœur n'est pas honnête aux yeux de Dieu. Rejette donc ta mauvaise intention et prie le Seigneur pour que, si possible, il te pardonne d'avoir eu une telle pensée. » Je vois en effet que tu es plein d'un mal amer et que tu es prisonnier du péché. Simon dit alors à Pierre et Jean, priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. Après avoir rendu témoignage en prêchant la parole du Seigneur, les deux apôtres retournèrent à Jérusalem. En chemin, ils annoncèrent la bonne nouvelle dans de nombreux villages de Samarie.
Quelle version tu as ?
Bouffti. B-E-X.
C'est la Bible expliquée.
C'est la Bible expliquée.
Oui, pourquoi c'est la même.
Je l'ai pris comme ça par hasard. Oui. C'est pas bien ça. Sur moi.
Non, j'ai rien dit. Moi.
Non, mais je pose une question.
Pas bien.
Non, non, mais je pose une question.
Regarde comme
dans les versions.
C'est marrant.
Tu as ça aussi ?
Oui, oui.
Ah, tais-toi.
Les variantes qu'on peut avoir sur la traduction.
Oui,
les choix que font les traducteurs.
Oui.
Et
c'est peut-être un peu plus explicite.
Oui, en tout cas, c'est plus français, de belles tournures, disons.
D'habitude, je prends Darby, moi. Mais bon, voilà, elle était dessus, je ne sais pas pourquoi.
Ok. Très bien. Bon, alors, il y avait un certain nombre de questions. Je rappelle que les questions ne sont pas là pour être nécessairement traitées entièrement. Elles sont surtout là pour aider à la recherche dans le texte. C'est la raison pour laquelle je ne suis pas le questionnaire pour la soirée. Je pars du principe que chacun a pu y puiser et trouver quelques réponses aux questions, ce qui nous aide dans le partage. Mais donc posons peut-être juste en deux mots le tableau de cette péricope. On a donc deux apôtres, Pierre et Jean, qui sont délégués en Samarie pour finalement accréditer, voire compléter le travail de l'évangéliste Philippe. En fait, c'est ça que ça nous raconte, en deux mots. Après, il y a à l'intérieur de cette péricope une espèce de sous-péricope, si vous voulez, qui sont les versets 18 à 24, si on tient la réponse de Simon, une sorte de parenthèse dans cette péricope, avec de nouveau un focus sur Simon dont on avait parlé la dernière fois. Et donc là, on va pouvoir voir si nos idées sont vérifiées par rapport à ce qu'on a partagé la fois dernière sur ce personnage. Et puis la péricope poursuit alors, juste après la réponse de Simon, il se termine par le retour des deux apôtres à Jérusalem. Voilà. Alors, on va peut-être commencer par... je pense que ça faisait partie des questions, d'ailleurs. Oui, c'était plus ou moins la question 2. On a cette fameuse formule. Alors, peu importe la version, mais apprenant que ou ayant appris que, etc., le conseil apostolique de Jérusalem délègue deux personnes. Et la première question que moi a jailli dans mon esprit, mais c'est comment ils l'ont su ?
Ah oui.
Par qui, par quoi ?
SMS.
Ayant appris. Oui, oui, je suppose. Hein. Petit Instagram.
Retournons. C'est déjà le premier. Hein. Le deuxième. C'est parti. Ils sont tous contre moi. Ils ont tous marqué.
Pour déléguer deux personnes éminentes, les deux principaux apôtres du conseil, n'est-ce pas ? Il fallait qu'il y ait une raison impérieuse. C'est-à-dire, ce n'est pas simplement le « on dit » qui fait que on délègue deux apôtres. Donc, il s'est passé quelque chose préalablement qui fait que les apôtres se sont tenus au courant. Donc, alors, il fallait donc qu'il y ait un réseau d'informations, en gros. Mais tout ça, on ne le devine pas à première lecture. On passe tellement vite sur le détail. Mais finalement, donc, il y avait une sorte de réseau d'informations préalablement organisé.
Par le facteur.
On peut estimer à combien les kilomètres ?
Ah, minimum la Samarie. La
c'est vrai ?
Minimum 50.
C'est bien 50. La preuve que je n'ai pas lu la question. Voilà.
C'est bien.
C'est très bien. Tu peux me
faut pas lire la question. Donc. Le minimum du minimum, au nord de Jérusalem, il fallait au moins faire 50 bornes à pied pour arriver en Samarie. Or, on suppose que Sébasté n'était pas à la frontière, hein, si c'est le lieu de l'ancienne Sichem, et qu'en plus de ça, on nous parle de différents villages hein, vers la fin du texte, ça montre qu'il y avait une certaine distance entre l'endroit où ça s'est passé et la frontière de la Samarie. Voilà, en gros. Mais déjà, 50 km à l'époque, à pied, c'est pas mal.
C'est pas mal.
Parce que les chemins du Nord, c'est des chemins montagneux, rocailleux. C'est pas, on ne descend pas au Jourdain pour remonter après en Samarie. On peut le faire, mais c'est beaucoup plus long. Donc le chemin le plus direct, c'était de prendre au nord de Jérusalem.
Je ne voyais pas en mule, c'est une question.
Pas toujours, en tout cas. Si tu étais marchand, tu pouvais être sûr qu'il y avait des mules ou des chameaux. Mais la plupart des gens marchaient à pied. Tranquille, comme nos pèlerins d'Emmaüs d'ailleurs.
Ouais.
Voilà. Bon, donc peu importe, à pied disons deux jours, à mule peut-être plus rapide, mais je me demande si une mule ferait 50 bornes chargées en une journée en montagne. Peu importe. Donc quoi qu'il en soit, c'est pas juste à côté. Et donc sans réseau d'informations qui remonte les informations au fur et à mesure. Alors ça, c'est la première conséquence, si vous voulez. Mais la deuxième, c'est quoi ? C'est qu'alors, on devine que Philippe n'est pas parti de son plein gré ou par trouille, hein, parce qu'il y avait la persécution à Jérusalem, mais qu'il a été mandaté. Mandaté par les apôtres pour commencer à réaliser la fameuse demande de Jésus qu'on retrouve dans le chapitre 1. Vous vous rappelez, hein ? L'ordre, c'était d'aller jusqu'en Samarie, et au-delà de la Samarie. Ouais. Donc, on peut se dire qu'il se passe quelque chose à ce moment-là, mandaté hors de Judée, c'est-à-dire hors du territoire judaïsant, pour se retrouver en territoire pourri, hein, c'est-à-dire les demi-juifs, voire les païens. Et donc, il fallait déjà une sacrée décision. Hein. Mais on peut se demander pourquoi ça intervient à ce moment-là. Et là, je crois qu'effectivement, la persécution croissante qui s'était abattue d'abord sur les apôtres, rappelez-vous, et puis ensuite sur l'Église de Jérusalem, c'est ce qui a, le déclic, décidé les apôtres de remplir, j'allais dire enfin, la totalité de la mission que Jésus leur avait assignée, pour rappel, chapitre 1, verset 8, hein, la petite demande concernant l'évangélisation du monde. Donc voilà peut-être les raisons qui font que Philippe n'est pas là par hasard en Samarie et que ce qu'il fait en Samarie a une importance pour le conseil apostolique qui tient à l'œil ce qui s'y passe et qui, voyant le résultat, hein, recevant l'information du résultat, c'est-à-dire la conversion de beaucoup de Samaritains, décide alors d'y déléguer deux apôtres. D'accord ? Voilà un peu la raison. Et puis je vous avais posé une question, parce que c'est toujours dans le début de ce texte, apprenant que la Samarie, j'avais posé une question sur c'est quoi le changement qui s'opère entre le texte précédent que nous avons étudié, où on nous parlait de quoi ? De la ville ou d'une ville en Samarie, tout d'un coup, ça devient la province entière. Oui. Et ça se vérifie à la fin de la péricope, puisque on découvre effectivement que non seulement Philippe, mais Pierre et Jean continuent le travail de Philippe, l'évangélisation des différentes bourgades. Donc, voilà, on peut se dire que Philippe, avec l'aide de Dieu, a réalisé une grande partie du travail qui lui avait été assigné, qui était de toucher les Samaritains. Moi, personnellement, ça me parle assez bien, parce que, de nouveau, on voit que l'Église agit autrement que le judaïsme. L'Église, pourtant issue du judaïsme, veut en finir avec la guerre avec les Samaritains. On ne veut plus considérer les Samaritains comme des hérétiques, des ennemis, des gens peu fréquentables, des gens qui ne devraient pas avoir droit au chapitre en matière de religion. Or, pour rappel, les Samaritains observaient une grande partie de l'Ancien Testament juif, hein, voilà, à quelques écrits près, et ils étaient quand même considérés comme pas bons. Peut-être même moins bien qu'un prosélyte, quoi, en gros. Donc ça fait tâche. Et donc on se rend compte ici que si c'est vraiment la volonté du Conseil apostolique et de certains hommes comme Philippe ou Étienne qui est décédé, l'évangélisation des Samaritains devient une priorité. Et peut-être une priorité avant les païens. C'est-à-dire, commençons par faire le nettoyage là où il faut le faire, c'est-à-dire avec ceux qui sont proches de nous. Alors, les prosélytes d'une part, les Samaritains d'autre part. Et donc une volonté de mettre en œuvre quelque chose, un peu comme je l'avais dit la fois passée, comme cette espèce de transition nécessaire vers le monde païen, hein, comme un sas qui permettra d'aller au-delà, d'aller plus loin. Donc, résumons les choses, versets 14 et 15, on découvre alors que deux apôtres sont envoyés. C'est pas inintéressant de se dire que le mot envoyé en grec, ça vient d'apôtre, justement, apostolein, hein, voilà, pour ne rien cacher. Donc, ils sont missionnés, si vous voulez, si je traduisais plus fidèlement, vers la Samarie, au sens large du terme. Donc, pas seulement la ville où Philippe aurait fait le plus beau score, mais l'ensemble de la Samarie. Ce qui se tendrait à dire que Philippe avait déjà parcouru, avant peut-être la grande ville dont on a parlé la fois passée, bien d'autres bourgades qui font qu'il y a un intérêt à visiter toute la Samarie. D'accord ? Alors, on observe une chose, c'est aussi une question intéressante, je trouve, à garder en mémoire, c'est qu'on n'envoie pas, je ne sais pas moi, Typhon Tournesol, ou voilà, on envoie deux des plus éminents du collège apostolique.
Et quand on dit « ils », c'est... Ils ont donc établi un conseil, certainement. Ah, voilà. Mais ça, on n'a jamais parlé de ça.
Oui, donc, en tout cas, une chose, et c'est intéressant ce que tu dis, parce que ça montre de nouveau que ce n'est pas Pierre et Jean qui s'auto-proclament mandatés, mais que l'ensemble du collège apostolique décide. Et sans doute, on comprend que Pierre ait été choisi dans la mesure où il est quand même le leader principal à Jérusalem. Donc, si on veut ouvrir l'évangile aux demi-juifs et puis aux païens plus tard, autant envoyer le plus grand de nos représentants, si vous voulez, donc Pierre et Jean. Et je suppose que vous n'aurez pas de mal à deviner pourquoi Pierre et Jean. Parce que c'est quand même le binôme perpétuel.
Ben oui.
Dans les évangiles, déjà, voyons, je ne sais pas que les actes.
Oui, Pierre, Jacques et Jean.
C'est vrai. Jacques. C'est ça.
Oui, mais là, depuis la résurrection, Pierre et Jean, Pierre et Jean, Pierre et Jean, parce que c'est quand même les deux grands témoins de la résurrection. Donc, le plus vieux et le plus jeune, vous voyez, un peu les deux représentants des différentes tranches d'âge.
Je ne sais pas si on en avait parlé, mais le Jacques, qui était le responsable de l'Église
à Jérusalem,
c'est le Jacques et Jean. Ce Jacques-là, non, c'est pas ce Jacques-là. Hein.
Ah, on va pas se disputer, mais le Jacques qui est patron à Jérusalem serait le frère de Jésus.
Ce serait plutôt le frère de Jésus. Ouais. Ouais,
okay. Donc voilà.
Okay.
Ah, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles lui n'est pas là, parce qu'il fallait bien quelqu'un qui garde le.
Oui, le troupeau.
Ouais, un petit peu quand même. Hein,
oui.
Si tu lâches les deux,
ouais, ouais,
les
ouais,
deux
ouais,
plus influents. Juste.
Et le frère de Jean, ce serait lui qui aurait été jusqu'à Compostelle.
Ah,
encore faut-il croire à,
ouais, voilà.
À ça, quoi.
Il n'y est pas encore, là. On est en train de répondre.
Mais on en parle, on ne sait pas ce qu'il est devenu, au fond. Jacques, le frère de Jean.
Non, dans l'écriture, en tout cas, on n'a pas d'infos.
Comme il y a plein d'autres apôtres, on ne sait pas.
Maintenant, c'est vrai que moi, je ne suis pas un féru de la tradition historique dans le cadre de l'Église. Bon, il y a des tas de théories, en fait, hein, de ceux qui seraient morts en Chine, il y en a d'autres qui sont morts.
Oui, j'avais lu ça, oui, c'est pas juste ça.
C'est la tradition qui le dit, mais bon, voilà.
Ah, ouais. Parce qu'ils sont tous...
Ce qui est dommage, c'est qu'on...
André est mort en croix, d'ailleurs, croix Saint-André,
oui.
C'est la tradition.
Ah, oui. Et donc, voilà, si tu veux, on n'a ni preuve historique, c'est-à-dire d'autres documents, ni une visée biblique claire qui nous dit que un tel et un tel sont morts de telle et telle manière. Même pour des gens comme Pierre et tout ça, et Paul, bon,
on n'est pas sûr.
À 100%. On sait qu'ils sont morts à Rome, ça c'est clair. Mais Jean, où est-il mort? Est-ce qu'il est mort à Patmos? Il était encore là ou bien il a été libéré? On n'en sait rien. Voilà, maintenant, ce qui est vrai, c'est quand même que les premiers grands théologiens de l'Église des trois premiers siècles avaient des infos que nous n'avons pas. Mmh. Et certains l'ont écrit.
Ah oui.
Mais voilà, après, est-ce qu'on leur fait confiance? Ça, c'est une autre question. Qu'est-ce qui faisait partie peut-être déjà de la tradition, c'est-à-dire de l'embellissement de la situation? Pas dans le mauvais sens du terme, hein. On écrit une belle histoire parce que ça vaut la peine de l'écrire. Donc je ne dis pas qu'il y a travestissement ou magouille, mais quelque part, quelle part de vérité peux-tu accorder à la tradition si elle n'est pas corroborée à minima par l'écriture? Ça, c'est quand même un peu scarpe, quoi, je trouve. Voilà. C'est pour ça que moi, je ne dis pas qu'il faut minimiser la tradition, qu'il ne faut pas la mépriser, mais il ne faut pas non plus lui donner l'autorité qu'elle n'a pas, en gros. Donc, je ne sais plus où j'en étais, mais bon.
Mais que Pierre et Jean étaient les grands témoins de la résurrection.
Voilà. Donc, ça accrédite, si tu veux, un côté enseignement ou témoignage. Et en plus, le choix, c'est quand même Pierre, le leader, et Jean, l'ami fidèle, l'ami proche de Jésus. Donc, il parle avec une certaine autorité, dans le bon sens du terme, une bonne connaissance de qui était Jésus. Et ils reçoivent donc cette mission officielle d'accréditer le ministère de Philippe, parce qu'ils n'y vont pas pour sanctionner Philippe. On aurait pu dire envoyer une délégation pour dire « Dis Philippe, tu déconnes. » On n'avait pas dit les Samaritains.
Ouais.
Non, c'est tout ce qui se passe. Non, non, donc ils y vont vraiment dans le but d'appuyer, d'accréditer ce qui s'y est passé, le résultat du travail de Philippe. Et, en l'occurrence, c'est ce qu'on découvre dans le texte, communiquer l'Esprit Saint aux Samaritains. Et donc, comment ça se déroule dans les versets 14 et 15, on découvre qu'il commence, c'est assez curieux d'ailleurs, une fois arrivé, qu'est-ce qu'ils font? Ils n'imposent pas les mains, ils prient. Et ils prient pour qui? Pour les Samaritains.
Ouais.
C'est-à-dire pour leurs ennemis.
Les croyants. Oui. Hein,
si on s'en tient à la position judaïque.
Ouais.
Pour leurs propres ennemis, ayant pris conscience de la conversion et du baptême, puisque c'est ce qu'on a appris la dernière fois,
et ici aussi.
Tous ces gens se font baptiser. Alors, le texte grec, contrairement à notre traduction, ne parle pas du Seigneur Jésus, mais dit simplement au nom, dans le nom. Ils sont baptisés dans le nom.
Oui, c'était suffisant.
Sous-entendu.
Oui, sous-entendu. Voilà.
Mais on a déjà vu cette expression dans les études précédentes, le nom représentant vraiment Jésus. En même temps, le nom, pour une oreille juive, c'est Hachem. C'est Dieu, finalement.
Ah oui,
voilà.
J'ai, moi, baptisé au nom du Seigneur Jésus, dans ma traduction.
Ah oui, dans presque toutes les traductions, c'est ça.
Aussi,
alors que le grec se contente du nom.
Ah. Ouais,
ils ne disent pas qui, mais voilà. Mais tout le monde devine, évidemment, de quoi il s'agit. Alors, pourquoi je dis ça? Oui.
Pourquoi il fallait que ce soit Pierre et Jean qui fassent le baptême dans l'esprit?
On va y arriver. On va y arriver. Oui, parce que là-dessus,
Philippe avait fait que le baptême par l'eau,
commentaires.
Alors il était quand même, il avait Ah non, Philippe n'avait pas assisté à la Pentecôte.
Philippe est toujours là, lui. Hein.
Mm-hmm. Oui, mais il n'avait peut-être pas... Il n'était pas présent à la Pentecôte.
Ah, je n'en sais rien. En tout cas, lui faisait partie des gens proches des disciples. Hein. Peut-être qu'il y était à la Pentecôte. Hein. Mais en tout cas, une chose est claire. On va y venir à cette question que tu poses. Pourquoi Pierre et Jean et pourquoi l'imposition des mains? Parce que là-dessus, il y a tellement eu de commentaires divergents qui s'opposent les uns aux autres, qui mélangent tradition et histoire, si vous voulez. En tout cas, tradition et révélation biblique. Au point qu'à la fin, tu sais plus ce qu'il faut vraiment croire. C'est-à-dire que certains pensent que l'imposition des mains était sacramentelle, qu'elle était nécessaire. Moi, je ne lis pas ça dans le texte. En tout cas, l'exégèse du texte ne le montre pas. On va donc essayer de comprendre un petit peu ce qui s'est passé à ce niveau-là. Donc, je reviens à mon propos. Il commence donc d'abord par une espèce de temps d'arrêt, de prière, pour les Samaritains qu'ils sont venus visiter et qui sont déjà croyants. Hein. Je le répète, ce n'est pas prier pour la conversion des Samaritains. Et le texte précise alors, un peu plus loin, à partir du verset 16, la raison pour laquelle ils prient. Parce qu'eux, ils prient pour que les Samaritains reçoivent le Saint-Esprit. C'est le but, hein, c'est leur sujet de prière. Et en effet, dit le texte, l'Esprit n'était pas encore tombé sur aucun d'eux. Alors ça, c'est intéressant, l'expression, parce que, oui, en grec, il y a quelque chose d'assez fort. Qui sous-entend une manifestation comme à la Pentecôte. Donc ça vient aux questions que vous posiez tout à l'heure. Hein. Donc on a l'impression qu'ici, ce qui n'a pas eu lieu, c'est un baptême dans le Saint-Esprit visible, aussi authentique qu'à la Pentecôte des croyants juifs. Vous voyez ce que je veux dire? Là, ce que j'essaie de vous montrer. Donc, on a l'impression que l'argument ici, c'est de dire... L'Esprit ne s'était pas encore manifesté comme à Jérusalem. Ce qui ne sous-entend pas, contrairement à certains commentateurs, qu'il n'y aurait pas d'Esprit du tout. Parce que déjà, je pense que pour que des Samaritains qui ont leur propre conception de la foi et du regard et de la relation à Dieu, est-ce qu'ils ont vraiment besoin d'une conversion? Par exemple, on aurait pu se poser la question. Or, c'est ce qui se passe. Ils se tournent vraiment vers Jésus.
Ils le reconnaissent comme Messie.
Ils se font baptiser. Et donc, tout ça, c'est déjà le travail du Saint-Esprit dans le cœur et l'âme de ces hommes, pourtant demi-croyants, si vous voulez, par rapport au judaïsme. Et on ne peut donc pas dire qu'il leur manquait de l'Esprit, mais par contre, il manque le signe visible et authentifiant. Vous voyez ce que je veux dire? Autant nous avons dit dans les commentaires précédents sur la Pentecôte que la Pentecôte visible, c'est le signe des temps messianiques pour les Juifs. Eh bien, ici, on a un peu comme un redoublement de cette réalité. Il faut que ce même signe soit posé sur les Samaritains. Et si vous regardez plus loin dans les Actes, vous verrez qu'après, il n'y a plus ça. Il n'y a plus d'imposition des mains non plus. Donc l'Esprit Saint, au moment où tu te convertis, pouf, ça tombe sur le païen, clac. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est comme si, pour ceux qui étaient dans la relation au vrai Dieu, donc juifs et samaritains, il fallait cette espèce d'authentification que c'est bien le temps messianique. Voilà. Bon, c'est une des interprétations, en tout cas, qu'on peut donner, mais je vais essayer de continuer un petit peu. Donc... Contrairement à ce qui va se passer pour les païens, et c'est à partir du chapitre 10 qu'on découvre ça, et 11, la conversion et le baptême des Samaritains n'a pas entraîné la manifestation caractéristique du temps messianique. L'Esprit n'est pas tombé sur eux, dit le texte. L'Esprit est manifestement discret, pas très visible, et on peut se poser la question du pourquoi il en est ainsi. Sans doute d'abord... pour que les apôtres s'impliquent, c'est-à-dire que le collège apostolique à Jérusalem se dise « Ah, on a bien l'info qu'il y a des conversions, on a bien l'info qu'il y a des baptêmes, mais par contre, l'Esprit-Saint est assez discret, on doit peut-être y aller. Hein » On doit peut-être y aller. Qu'ils s'impliquent dans la manifestation de ce signe au sein de cette population méprisée, je le rappelle, par le judaïsme de l'époque. S'agit-il pour Dieu alors d'une manière de convaincre l'Église de Jérusalem ? Parce que quand même, il faut que nous observions que même s'il y avait une belle unité à Jérusalem, il y avait quand même un clan conservateur qui voyait mal l'ouverture, alors aux Samaritains d'une part, mais aux païens encore pire. Donc comment Dieu peut-il convaincre l'Église de Jérusalem que le salut est aussi pour ces Samaritains, et de fait, comme deuxième ricochet, vous voulez, pour les païens? Eh bien, il fallait qu'il se passe quelque chose. Et donc, moi j'ai l'impression que Dieu cherche à convaincre l'Église que le Messie s'adresse à tous et prépare de cette manière-là l'ouverture aux païens, l'accessibilité de l'Évangile aux païens. Mais il y a peut-être quand même une deuxième raison, parce que ça ne me satisfait pas totalement. Le fait que ces Samaritains sont des hérétiques, ou des demi-juifs si vous voulez, eh bien ça impliquait un geste significatif d'incorporation dans l'Église apostolique, dans l'Église gouvernée par les apôtres, qui consiste alors en l'imposition des mains, et rappelons-nous que l'imposition des mains, c'est une manière d'élire aussi, à l'époque, donc de choisir, hein, de manifestation d'un choix qui est collectif, qui est celui du collège apostolique, voire de l'Église de Jérusalem, dans le choix de faire entrer les Samaritains dans la grande Église. Vous voyez ce que je veux dire ? Jusque-là, on avait l'Église de Jérusalem.
Oui, c'est ça.
Mais à cause de ce qui se passe en Samarie, ben on doit faire péter les murs. Parce que comment on va les appeler alors ceux-là, si on ne peut pas les incorporer dans l'Église qui a pignon sur rue à Jérusalem ? Et donc, de fait, si vous voulez, on peut se dire que le geste, alors l'imposition des mains d'une part, l'Esprit Saint qui se manifeste alors à ce moment-là, c'est une manière de rendre authentique non seulement le temps messianique, mais le choix véritable d'un peuple mal accueilli, on va dire ça comme ça, méprisable, tenu à l'écart par le monde juif. Voilà que l'Église judaïsante, la nouvelle voie, ouvre ses portes à ceux-là même qui étaient très mal considérés. C'est donc une manière de recevoir officiellement les Samaritains, et une fois pour toutes. C'est-à-dire que ce n'est pas à condition que vous restiez dans le giron du judaïsme ou je ne sais pas quoi. Une fois pour toutes, tous ceux qui se sont tournés vers Jésus font partie de la même Église que... Alors, pas que celle de la localité de Jérusalem, mais que celle qui existe à Jérusalem, dans ce qu'elle a de missionnable, missionnaire, si vous voulez. Et de couper court, alors, aux discussions au sein de l'Église de Jérusalem. Voilà, parce que si c'est Dieu qui envoie l'Esprit au travers des deux apôtres délégués, qui fait que les Samaritains sont reçus dans l'Église, ben, à quoi bon discuter après est-ce que les Samaritains peuvent entrer dans l'Église ? On ne va pas contester à Dieu le choix qu'il fait de laisser entrer les Samaritains. Donc c'est un geste plutôt de reconnaissance officielle de ce qu'on va appeler maintenant l'Église de Samarie, parce qu'elle existe bel et bien. Et c'est un acte aussi de communion avec les frères ennemis, que cette imposition des mains, la réception du Saint-Esprit. Donc comment je pourrais le traduire, si vous voulez ? On aurait pu imaginer... une église samaritaine à demi-église, comme du temps du judaïsme. Vous voyez ce que je veux dire ? Ils ont juste la conversion et le baptême, mais l'esprit, ils ne l'ont pas. Ouais, des demi. Ben non, pour une fois, ben ils deviennent des entiers. On les reconnaît tout simplement comme égales, comme partenaires égales dans le partage de l'évangile et dans l'avènement du royaume, ce qui est quand même une révolution. Enfin, je ne sais pas si on en prend vraiment conscience, nous, mais... c'est une terrible révolution par rapport à tout ce qui s'est passé dans l'histoire du judaïsme, dans leur opposition aux Samaritains, qui dure quand même depuis longtemps. Alors,
on ne parle pas des effets, tu vois, de la descente du Saint-Esprit, contrairement à ce qu'on en parlait à Jérusalem. Est-ce qu'il y a eu une démonstration ?
Ah, parce que bon, en tout cas, il y en a, puisque c'est ce qui sidère Simon.
Oui, c'est ça.
On va le voir dans
un
moment.
Oui, c'est un peu caché.
Donc, il se passe quelque chose de particulier.
On suppose, oui.
Il n'est pas indiqué. Dans la réception, parce que le verbe qui est utilisé justement, tomber, c'est pas innocent. Ils auraient pu dire, ils reçoivent, comme c'est dit d'ailleurs un peu plus loin, hein, ils recevaient l'Esprit Saint, termine le texte. Mais pourquoi alors cette manifestation, comme à la Pentecôte, ça s'est descendu sur eux et c'était visible, hein. Donc il y a de ça en réalité, quoi. Et voilà que notre jolie histoire prend de nouveau une tournure un peu tragique avec un « mais ». Au verset 18, à propos de Simon. On pourrait dire « focus sur Simon, retour sur Simon » dans les versets 9 à 13, hein, qui avait précédé, et bien là, on retourne avec les versets 18 à 24 vers ce fameux personnage dont on n'a pas pu se dire la fois passée qui il était vraiment. Était-il vraiment croyant? Jouait-il aux croyants? On n'a pas pu, ni moi ni vous, dire « oui, si, moi je suis convaincu que... » Bon, donc on a laissé planer un peu le doute. Mais maintenant, à partir du verset 18, on découvre, j'ai pas envie de dire le véritable Simon, mais comment Simon vit, finalement, sa croyance en Jésus. C'est une sorte de parenthèse, si vous voulez, éclairante sur le personnage. Alors, nous savons, parce que c'est ce qu'on a lu la dernière fois, qu'il est croyant. Et en tout cas, il est considéré comme tel. On sait aussi qu'il a été baptisé. Et bien que croyant et baptisé, Simon a gardé tout son intérêt pour les phénomènes extraordinaires, les signes, les miracles qui séduisent, hein, et qui maintiennent les foules dans l'émerveillement. On pourrait ici se dire que son vieux moi, pour reprendre un vocabulaire paulinien, est toujours bien présent. Dans sa manière d'appréhender ce qui se passe autour de lui avec Philippe et maintenant avec les apôtres, il y a cette même attirance vers le merveilleux, vers les choses qui sont visible et utilisable, d'accord. D'ailleurs, si on lit vraiment ces quelques versets-là, notamment verset 18, le non-dit du texte laisse entendre que lui-même, Simon, n'a pas encore reçu l'Esprit Saint.
Oui, ça laisserait penser.
Vous voyez, ouais. Donc, y a-t-il une raison à cela? Objectivement, je ne sais pas le dire dans le texte, mais on peut imaginer que ni Philippe ni les apôtres n'ont jugé bon jusqu'à présent de lui imposer les mains pour lui refiler l'Esprit Saint. La preuve, c'est qu'un peu plus loin dans le texte, on découvre qu'il le demande,
oui.
Hein, d'une certaine manière. Donc, prenons pour fait que lui n'est pas encore baptisé dans l'Esprit Saint et que ce qui l'intéresse finalement, c'est ce qu'on découvre un petit peu plus loin, c'est de le recevoir lui, mais d'en user, puisqu'il utilise au verset 19, si vous vous en souvenez, le mot « pouvoir ». « Accordez-moi, leur dit-il, à moi aussi, ce pouvoir. » Comme si imposer les mains et transmettre un don était un pouvoir. Le vocabulaire même nous montre un peu la manière tordue dont Simon appréhende la foi et la réalité du spirituel. Il veut se l'approprier, ce don. La preuve aussi, c'est l'argent qu'il fait miroiter. Il est peut-être là avec sa liasse, il dit « Donnez-moi un peu votre pouvoir, là, ici. » S'approprier ce don qui dépasse de loin, et on comprend, toute la magie qui opérait dans le passé. Donc, ce qu'il voit là le surprend tellement, lui paraît bien plus intéressant que ce que lui faisait avant, ouais. Du coup, il veut se l'acheter. Comme, d'ailleurs, à l'époque, on pouvait s'acheter des formules magiques. Hein. Entre magiciens, on se vendait tel truc et tel truc, et voilà, bon. Enfin, bref. Donc, pour lui, il agit comme autrefois. Et il demande, avec pognon à la clé, qu'on lui file le fameux pouvoir. Éventuellement, pour l'utiliser, sinon il ne le demanderait pas, mais peut-être même pour le monnayer, en clair, on pourrait dire qu'il retourne à son vomi, c'est-à-dire d'être encore la vedette auprès de son ancienne clientèle. Parce que finalement, tous les convertis et tous les baptisés qui sont là sont ses anciens clients. Donc c'est peut-être une manière pour lui de récupérer un peu le pactole, de reprendre un petit peu de galon et de pouvoir de nouveau influencer un petit peu le groupe, tout en jouant peut-être avec ce vocabulaire chrétien, religieux, etc. Pourquoi pas ? Et donc le texte nous dit très clairement, et c'est ce qui va faire péter les plombs à Pierre, qu'il leur propose de l'argent. Il leur offre de l'argent. Alors en grec, ce premier mot, c'est le mot « kremata ». Et « kremata » au pluriel, c'est justement, implique une notion d'argent, de monnaie, si vous voulez. On pourrait le traduire aussi par « des biens », mais pas des biens matériels. Ici, il s'agit vraiment de pognon. Et d'ailleurs, on en a la preuve un peu plus loin dans le texte, quand Pierre va lui dire « périsse ton argent », il utilise bien le mot « argent », « argurion » à ce moment-là. Donc c'était bien de l'argent, de la monnaie que leur propose ce Simon. Donc, il s'agit donc pour lui d'acheter aux apôtres le pouvoir de communiquer l'Esprit-Saint. Et c'est ici qu'on découvre finalement le vrai Simon. Je pourrais presque dire une sorte d'Ananias bis, si vous voulez, dans son genre. C'est ce qui montre à mes yeux que l'Église peut toujours être infiltré par des croyants de nom,
il y en a.
Mais pas de cœur ou d'esprit. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, je pense qu'on, c'est pas une question de se méfier, mais quand on est trop, trop gentil dans l'Église, c'est qu'on n'a pas les yeux ouverts sur la réalité de l'Église. L'Église, ce n'est pas que des gentils. L'Église, c'est aussi des méchants, y compris dans le leadership, hein, on voit bien ça dans tous nos milieux. Donc on peut avoir des prêtres tordus, des pasteurs tordus, des menteurs, des voleurs, des usurpateurs. Et qu'est-ce qui fait la différence ? Ben, c'est la vocation à discerner qui fait la différence. C'est ce petit peuple de Dieu qui est appelé à dire « Non, toi là, tu déconnes. Mm-hmm. » Et nous, on te dit « On ne veut pas de ton leadership. » Parce que ce n'est pas un leadership dans la communion du Christ. C'est n'importe quoi. Voilà. Donc ici, on a un peu cette réaction de Pierre, Saint-Pierre, qui va réagir très durement, hein, très très durement. Mais restons d'abord sur ce premier stade. De fait, donc, on découvre un Simon qui ignore que l'Évangile est gratuit, qu'il est gratuité, qu'il est grâce, que rien ne s'achète dans le monde de l'Évangile, dans le royaume de Dieu. Comment pourrait-on acheter ce qui est donné gracieusement, ce qui vient de Dieu lui-même ?
Et qu'on ne peut pas manipuler le Saint-Esprit.
Exactement.
Il ne se manipule pas.
Si Simon avait été au clair avec ces vérités toutes simples de l'Évangile, il n'aurait jamais proposé ce marché. Il n'aurait jamais osé proposer de l'argent pour obtenir quoi que ce soit, même une fonction. Tu n'imagines pas dans l'Église quelqu'un vient de dire, dis, si je te donne 1000 euros, est-ce que je peux avoir cette place ? Non, ça n'a pas de sens. Oui, il y a une période de l'Église, c'est vrai, tu as raison, où ça s'est passé. Là, il fallait avoir un peu de pognon quand même.
Oui, je viens. Et aux autres,
oui, parce que parfois, c'était des terres entières.
C'était incroyable.
Oui, oui. Le monnayage du leadership dans l'Église. Mais comme quoi, donc, on n'est pas à l'abri de tout ça. Et donc, on en arrive plus ou moins au verset 20.
Tu en
veux ? Oui, je veux bien.
Bah,
s'il y en a assez. Hein,
sinon, oui, il y en
a
assez.
Oui.
Oui, il y en a assez.
Et donc, on découvre tout d'un coup la réaction de Saint-Pierre, qui est vraiment très, très forte. Hein. En tout cas, dans ma version, c'est « Périsse ton argent et toi avec lui ». J'imagine si on nous disait ça aujourd'hui dans l'Église, hein. Ben, je ne sais pas si on n'emmènerait pas large. Et là, c'est très dur, c'est ton argent. Hein.
Mais alors après, c'est acheté avec, c'est comme au début ton bien, quoi.
Tu dis quoi ?
Tu veux dire quoi par là ?
Non, mais donc.
Vas-y Brigitte.
Mais
qu'est-ce qui te...
Non, c'est parce que tu as dit...
En premier, donc, au verset... que je me rappelle moi-même.
Au verset 16.
Au verset...
leur proposa de l'argent. Et
verset
en fait,
18.
Verset 18, oui.
Verset 18, voilà. Et en fait, il offrit à eux des biens.
Mmh.
Et au verset 20, c'est d'abord l'argent et puis c'est de nouveau des biens.
Voilà.
Mais enfin, je ne sais pas si c'est là-dessus, quoi. Hein, mais...
Je ne comprends pas.
Mais c'est pas le même mot,
c'est
en fait,
texte.
Quoi.
Ah, bon, c'est dans le texte.
Oui, sauf que quand c'est crémata, donc quand c'est le pluriel, généralement, il y a une notion de monnayage derrière. Mmh. Et donc, le verset 20, qui vient un petit peu plus loin, atteste qu'il s'agissait bien d'argent. Dans le sens métaux précieux, etc. Maintenant... Est-ce que là-dessus, il y avait d'autres promesses? Parce que moi, je ne sais pas, je ne connais pas l'histoire de Simon. Est-ce qu'il avait des biens en propre qui leur a promis des trucs? Mais partons sur la lecture la plus simple, qu'on leur propose un marché, finalement, d'acheter, quelle que soit la forme,
de toute façon,
d'acheter finalement le fameux don, le fameux pouvoir. Et donc, ce sont des paroles extrêmement dures, je trouve, de Pierre, qui marquent. Alors, je me suis demandé au début, je trouvais ça un peu... Un peu fort quand même, mais en même temps, après, ça marque en tout cas l'irrecevabilité fondamentale de la demande complètement folle de Simon. Donc c'est comme si Pierre sortait de ses gonds, parce que c'est énorme. La demande dépasse l'entendement. Parce que dans ce temps messianique que les apôtres vivent depuis maintenant des lunes, eh bien, rien ne s'achète. Ni le salut... ni les dons charismatiques, ni le pouvoir, tout est don ou tout est élection. Hein? On nomme des diacres, on a nommé deux apôtres, peu importe. Hein?
Est-ce que Jésus ne leur a pas dit « Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement ?»
Oui.
Si, hein?
Mm-hmm.
Donc, eux, ils baignent là-dedans.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Donc, en clair, il est impossible d'acheter Dieu, il est impossible d'acheter l'Esprit. On est ici presque dans une attitude blasphématoire, finalement, par rapport au contenu de l'Évangile. Mm-hmm. C'est une demande absolument déplacée et monstrueuse. Du coup, ça m'a un peu rassuré, parce que je me dis, bon, c'est vrai quand même, quand ça dépasse les bornes, il faut pouvoir le dire. Il faut arrêter dans l'Église d'être trop gentil. Il y a des moments où il faut dire aux gens, là, ça ne va pas du tout. On ne peut pas être d'accord avec cette attitude ou cette manière de faire ou de parler, etc.
Et surtout qu'ici, ça concerne le Saint-Esprit, quoi.
Exactement,
en plus.
Qui est quand même le signe par excellence de l'ouverture des temps messianiques. Donc c'est pas n'importe quoi, c'est pas simplement je reçois l'esprit pour devenir sage, etc. Ça atteste de quelque chose qui se déroule à ce moment-là. Et Pierre va continuer.
Oui, je suis en train de me rappeler, bon, je ne sais pas, mais allez, dans l'Évangile. Tout péché sera pardonné, sauf le péché contre l'esprit. Je ne sais pas si ça a à voir.
C'est là où je voulais en venir. Mais oui.
On avait déjà l'exemple d'Ananias qui a joué avec le pied de l'esprit.
Oui, on joue avec l'esprit. On joue quand même avec ce qui est le plus important, je vais dire.
Mais il y a de ça en tout cas. Il y a quelque chose de. Qui peut être
exploité. On peut comprendre. On peut comprendre qu'il soit énervé.
Et après, bon, Pierre prononce une phrase un peu énigmatique que peut-être on ne comprend pas, nous, je dirais francophones du XXIe siècle, en lisant ou en entendant le texte. Il lui dit « tu n'as ni part ni héritage dans ce qui se passe ici ». Alors les traductions varient assez bien, entre « en cette affaire », dit le texte. Je ne sais pas ce que vous avez d'autres comme traductions.
« En cette affaire », oui.
Ici, dans la top, c'est « il n'y a pour toi ni part ni héritage dans ce qui se passe ici », sous-entendu « ici en Samarie, sous tes yeux hein. ». Et alors, essayons quand même d'aller un tout petit peu plus loin avec cela, parce que cette expression « ni part ni héritage », c'est une très vieille expression sémitique qui date du Deutéronome.
Moi, j'ai ni portion.
Oui, c'est pareil, ni part ni portion. Ni l'eau, hein, on peut dire ça aussi. Eh bien, c'est une expression qui remonte à la place que les Lévites ont eue en Israël. Donc, ils n'avaient, dit le texte, ni part ni héritage avec Israël. Donc, c'est comment l'exprimer ? Ils étaient autonomes, mais dépendants. Oui ? Ils ne sont pas dans le même partage qu'Israël, mais Israël doit les entretenir, hein, mm-hmm. quelque chose dans ce goût-là. Ouais. Et donc cette expression ici est intéressante, typiquement sémitique et pas du tout grecque. Et le texte pour les Lévites dit même que, dans Deutéronome, dit ceci, que finalement c'est parce que leur véritable héritage, c'est Dieu. C'est ça leur véritable héritage. C'est la raison pour laquelle ils n'en ont pas ici-bas, de manière terrestre. Hein. Et donc ici, Pierre est en train d'essayer de dire quelque chose à notre ami Simon. Alors, quelle que soit la traduction, ici, en cette affaire, etc., le grec lui dit tout simplement « en cette parole ». Ça, c'est assez étrange, parce qu'aucune des traductions françaises, et j'ai vérifié, ne fait cette traduction littérale. Aucune ne choisit de traduire « tu n'as pas de part avec la parole sous-entendue », celle du verset 14. Alors, il faut remonter dans le texte, évidemment, un petit peu, où au verset 14, on nous dit quoi ? Apprenant que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu, etc. Donc, il n'a ni part, ni héritage. En tout cas, moi, c'est l'exégèse que j'en fais. Hein.
Oui, d'autant plus que c'est le mot logos et c'est pas
oui,
le mot
c'est
réma.
Exactement le mot.
Si
exactement.
Ça avait été réma qui pouvait être traduit.
Donc, ça aurait pu être enseignement ou peu importe. Mais non, c'est vraiment parole. Donc, il y a comme une redondance entre verset 14 et celui-ci, où on nous dit, toi, t'as rien compris, en fait. Tu fais semblant de suivre la parole qui t'a été enseignée, que t'as entendue, comme tous les autres, mais en fait, c'est pas du tout ce que tu fais. Tu continues à suivre ton petit bonhomme de chemin, ton nombrilisme, ton narcissisme, ton besoin de pouvoir, et etc. Moi, je trouve ça mais incroyable que Pierre ait comme ça cerné le bonhomme, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que Pierre... l'a moins fréquenté que Philippe, hein, il le découvre en arrivant. Et pourtant, clac, il lui assène quelques belles vérités.
Il a peut-être raconté certaines choses. Ah,
peut-être, oui. Peut-être bien que Philippe n'était pas idiot non plus, et qu'il avait un peu compris quel était le personnage.
Oui, mais d'un autre côté, la demande de donner de l'argent pour obtenir, pour eux, c'était vraiment clair, ça c'était le signe. Ils ont peut-être eu des doutes, on ne sait pas, hein. Mais apparemment, de ce qu'on lit, c'est ce problème d'argent qu'il a.
Qui a fait clore.
Ça, c'est clair. Et donc, on peut supposer que l'expression parole qui est utilisée en grec, c'est le renvoi au verset 14, si vous voulez. Il peut s'agir de la parole proclamée par Philippe, donc l'annonce de l'évangile par Philippe, du contenu de l'enseignement de Philippe, mais aussi de celui des apôtres qui a lieu. Hein, il a lieu en même temps que tout ce qui se passe là. Et pour le dire autrement, Pierre est en train de dire à Simon qu'il n'est pas des leurs. Ils ne le reconnaissent pas comme faisant partie des croyants en Jésus, en la nouvelle voie. Ou pour le dire encore autrement, il n'a pas part à la communion des sanctifiés, puisqu'il se situe volontairement en dehors d'elle, par son attitude, par sa demande, hein, qui est quand même assez incroyable, quoi. Et puis Pierre va lui préciser un tout petit peu après, mais en fait, ton problème, c'est que ton cœur n'est pas droit devant Dieu. En fait, tu falsifies, tu joues.
Comme
tu jouais
avant, hein, quoi.
Tu joues à ta connivence avec l'Évangile ou avec le Seigneur, mais en réalité, c'est pas droit. C'est une manière de dire, en tout cas, que Simon a quand même trompé son monde de manière préméditée. C'est pas simplement... Vous voyez, il est resté quand même le manipulateur qu'il était autrefois, avec la croyance et le baptême, si vous voulez. C'est ce qui me fait dire attention dans l'Église. Et Pierre ajoute même « Repens-toi de ta méchanceté ». En grec, c'est le mot « kakia », qu'on devrait peut-être plutôt traduire par « malice », dans le sens de « vice »,« ruse »,« tromperie »,« rouerie », si vous voulez. Donc Pierre, au fond, lui reproche d'avoir agi malhonnêtement, injustement, si vous voulez. Il lui reproche une attitude volontaire et consciente, et non pas la simple ignorance du jeune converti. On pourrait faire des erreurs en tant que jeune converti. Mais là, c'est bien plus grave. Ce n'est pas une bête erreur de quelqu'un qui ne connaît pas la règle. D'où l'idée de force de « repens-toi ». Hein ? Il faut se repentir. C'est la seule attitude qui puisse mener au pardon de Dieu. Sans repentance, Simon est perdu, d'une certaine manière. Alors, il y a aussi cette déclaration de Pierre qui dit « La pensée qui t'est venue au cœur te sera peut-être pardonnée. » Ça dépend de nos versions, encore une fois. Donc, tout d'un coup, je découvre que Pierre lui-même doute du repentir possible. Oui, ça va jusque-là.
Ou du pardon, parce que est-ce qu'il est pardonné quand on fait...
Peut-être pardonné. Hein,
parce que c'est vraiment... Parce que c'est l'esprit, quoi.
Oui, mais en même temps, il ne dit pas qu'il ne peut pas y avoir de pardon. Donc, Pierre pense qu'il pourrait y en avoir.
Quand on parle du péché contre l'esprit, il est clairement dit qu'il n'y a pas de,
il y a pas de pardon.
Pardon possible.
Ouais.
Impossible.
C'est ça.
Par contre, ici, Pierre donne quand même la possibilité, si tu réalises que...
En tout cas, il lui tend une perche.
Il tend une perche.
Il tend une perche. Il y a une possibilité.
Il ne le condamne pas directement.
Mais
je pense que...
Est-il si pourri dans sa tête que pour y arriver...
Ah, je pense que c'est plutôt ça que Pierre se dit. Ce type est tellement tordu qu'il ne va jamais se repentir.
Ah oui.
Donc, il n'y aura pas droit.
Ouais.
Pour lui, hein, tu vois. Non, c'est pour ça le peut-être. Le peut-être, c'est pas parce que Dieu peut-être le pardonnerait ou pas.
Ouais.
Non,
Dieu
pardonnerait, mais le problème, c'est est-ce que le gars va demander. Bon, on va y revenir dans un moment. Donc. Et c'est aussi finalement ce qui est souligné au verset 23. Et donc, Pierre continue à enfoncer le clou. Il dit, mais tu es dans l'amertume du fiel et les liens de l'iniquité. Alors nous, l'amertume du fiel, on ne sait pas ce que c'est. Hein.
C'est bien écrit, en tout cas.
Donc,
de chercher ce mot-là.
Bon, l'amertume du fiel ou le fiel de l'amertume, c'est très Ancien Testament. C'est une expression qui existe. Hein. Voilà. Bon. Qui marque très souvent le côté méchant. Bon. Alors, Pierre discerne une fois de plus, un peu comme prophète ou visionnaire, je ne sais pas ce qu'il faut dire, que cet homme est dans l'amertume du fiel, dit-il, c'est-à-dire tournure sémitique. Cette expression, ça souligne que l'apôtre voit en Simon quelqu'un qui a une certaine haine ou une certaine aigreur. Alors, je me suis demandé, mais pourquoi aurait-il de la haine ou de l'aigreur ? Ben oui, il a perdu toute sa clientèle, le gars. Donc, nécessairement, ça fait mal au portefeuille, ça fait mal à l'orgueil. Hein ? Donc, on pourrait comprendre, et à tout le moins, l'envie. Il est dans l'envie. L'envie des pouvoirs qu'il croit pouvoir obtenir, d'ailleurs, d'une manière comme il le faisait autrefois. Ben non. Peut-être aussi l'envie du succès de Philippe et des apôtres, d'avoir la même place qu'eux. Parce que exercer le pouvoir de transmettre l'Esprit Saint comme eux, c'est peut-être être à la même hauteur qu'eux, dans sa tête, dans son esprit. Et puis, verset 24, alors... Non, toujours verset 23, il est aussi question des liens de l'iniquité. En grec, c'est le mot adikias, c'est-à-dire plutôt traduire lien d'injustice, ce serait plus convenable. Donc on pourrait dire Simon est prisonnier. Simon est prisonnier de liens qui sont antérieurs à sa pseudo-conversion. Il est toujours dans le même lien qu'autrefois. Le lien de la manipulation, de la tromperie, du mensonge, de l'esbroufe, de l'émerveillement, de la séduction, vous voyez, tout ça, c'est toujours là, quoi. Et moi, en découvrant ça, en analysant le texte, je me dis, zut, la fois passée, j'étais presque prêt à lui pardonner à Simon. Mais là, c'est vrai que c'est bien difficile. Bon, je rigole, mais c'est vrai que j'étais prêt à me dire, bon, mais finalement, est-ce que Simon est simplement ignorant et... Et voilà, un petit coup de pouce l'aidera. Et je me dis, là, on est quand même devant un Pierre avec toute l'autorité qu'il a, quand même en tant que leader du collège apostolique, etc., ce Pierre, lui démontre par A plus B qui il est, il le dévoile devant les autres, parce que ça se passe devant d'autres personnes. Et la seule chose que Simon fait, c'est quoi, d'après vous? Je sais pas, moi, on m'aurait admonesté comme ça en public, je me serais senti en tort, mal. J'aurais sans doute demandé pardon d'abord aux apôtres d'avoir déconné. Après, ben, je me serais peut-être tourné quand même vers le Seigneur pour lui dire, franchement, je suis dans, j'ai péché contre toi, dirait l'Ancien Testament.
Ouais. Mm-hmm.
Eh ben, pardonne-moi. Ouais. Mais qu'est-ce qui se passe ici au verset 24?
Ben, il demande que ce soit les autres qui prient.
Mais ben, comment vous l'interprétez ça?
Ben, je trouve ça fort.
Ben, il a tellement peur de ne pas être pardonné, puisque le texte dit, s'il est possible que tu sois pardonné, tu vois, dans cet esprit-là. Là, je dis, mais enfin, j'ai autant demandé aux apôtres qui prient pour moi, tu vois.
C'est peut-être plus sûr.
C'est peut-être plus sûr que de moi-même, même si je m'en veux. On ne sait pas hein, s'il s'en veut. Mais à la rigueur, il s'en voudrait. Dire, enfin, je vais demander à des gens plus, tu vois.
Ça peut être aussi une humilité.
Ça pourrait l'être.
Qui n'a pas de relation
avec l'humilité. Ça veut dire qu'il n'a pas compris qu'il pouvait demander. À lui,
oui, d'avoir une relation.
Mais pas de repenti, en fait.
Oui, tout à fait.
Donc,
il ne veut pas prier.
Oui, déjà, ouais. Déjà, moi je pense qu'il faut aller jusqu'au bout de la logique. Ce gars n'ose pas la relation à Dieu.
Pierre l'a invité à prier et lui il dit non, c'est vous qui devez prier.
Et quand tu vois la longue diatribe de Pierre et puis la réponse très, très courte, brève, hein, priez vous-même le Seigneur.
La religion, c'est quoi? C'est l'homme qui essaye d'atteindre Dieu. Tandis que la véritable foi, c'est Dieu qui vient à l'homme et l'homme découvre que Dieu est l'intermédiaire direct, tandis que lui, il cherche encore des intermédiaires, ce qui était dans l'Ancien Testament, qui n'existe plus par Christ. Mm-hmm. On peut aller loin dans la réflexion de cette réaction.
Exactement.
Priez pour moi.
Priez pour moi.
Ouais. Ouais.
Soyez mes défenseurs, mes intermédiaires. Ouais. Mais je pense que sa réponse est plutôt arrogante.
Ah oui.
Parce que c'est une fin de non-recevoir, ce qu'il leur dit. Moi, je ne sais pas, devant le discours, ce à quoi il a assisté, puis tout le discours de Pierre sur lui, qui démasque son péché, leur dire, mais dites, priez vous-même. Peut-être qu'il a un peu peur de la relation à Dieu, peut-être peur de la punition, mais même là, je trouve que le texte ne nous autorise pas à dire clairement qu'il y a une crainte. Je crois qu'il ne veut pas cette relation, tout simplement. Et donc, pour se débarrasser...
Vas-y. Je ne suis pas d'accord. Parce que... Je ne ressens pas comme ça. Parce que je me dis... Il ne demanderait pas qu'on prie pour lui. Il ne demanderait pas qu'on prie pour lui s'il était toujours dans son arrogance.
Il s'en fiche un peu. Moi, c'est une fin de non recevoir comme il vient de le dire.
Oui, il ne dirait rien du tout. Il partirait comme ça.
Ce qui est étonnant pour moi, c'est que Luc s'arrête là et on ne sait plus rien de Simon.
Oui, c'est ça.
C'est le couteau.
C'est l'observation qu'il faut faire, effectivement. Ouais. C'est que c'est comme cette espèce de fin de non-recevoir ferme complètement le chapitre de Simon dont on n'entendra plus jamais parler.
Non, on ne sait même pas ce qui s'est passé.
Non.
Est-ce qu'il a prié?
Est-ce qu'il s'est repenti? Est-ce qu'il a fait partie de l'église de Samarie?
Plus de nouvelles. Hein.
Puis même là... À l'injonction qu'il fait aux apôtres, les apôtres ne mordent pas à l'hameçon. Le texte ne dit pas que les apôtres se sont mis en prière, illico presto. C'est fini. C'est comme si tout se refermait là. Moi, ça m'a surpris, en tout cas, que ça se termine par ce verset 24 comme un point final. Alors, je peux accepter, Brigitte, que l'arrogance est peut-être une interprétation. Mais c'est le sens. En lisant, c'est un peu ça, j'ai envie de dire, mais tout ça pour ça, quoi. Pierre se démène, lui explique par A plus B ce qui ne va pas dans sa vie, puis le gars leur dit, ben non, désolé, débrouillez-vous vous alors, hein, priez pour moi, quoi. Puis si Dieu veut me pardonner ou me sauver, il le fera. C'est quand même assez léger. Ça manque aussi de tact et de déférence par rapport à ces deux hommes du collège apostolique. Ça démontre aussi une certaine superficialité de la foi qu'il professait. Finalement, il n'a pas vraiment compris la proximité de Jésus, si tu veux. Il y a quelque chose, donc Bernard soulignait ça tout à l'heure. Il y a quand même des tas de choses qui peuvent ressortir, qui rend le personnage bizarre, quoi. Il n'y a pas de prise de conscience de sa faute, il n'y a pas de regret, il n'y a pas de demande de pardon adressée au Seigneur. Ben Simon renvoie tout simplement aux apôtres le devoir qu'il devrait quand même lui-même accomplir normalement. Si tu te sens concerné par la dénonciation de ton péché, ben la moindre des choses, c'est de dire « Oui, allez, j'accepte votre analyse et je demande au Seigneur de tourner la page, de m'aider. » Et rien de tout ça n'est dit, alors qu'on sait, nous, que Luc est plutôt prolixe et dans le détail. Là, c'est comme si, pouf, la page était tournée définitivement. Et au fond, je me suis demandé, mais c'est quoi la prière qu'il demande, finalement ? Ça aussi, ça vaut la peine. Priez vous-même, hein, tu vois, en ma faveur. Bah, c'est quoi une prière talisman ? Pour ne pas être puni, c'est une prière quoi ?
Pour qu'il ne m'arrive rien, est-ce que vous avez dit,
hein? Oui, donc c'est pour plutôt tout ce qui pourrait être négatif me soit épargné.
Oui, c'est ça. Ouais.
Mais pas pour mon salut. Non. Moi, c'est pas. Ouais. Je cherche pas plus loin que ça. Bon, c'est très très étonnant. Enfin, moi, j'étais très étonné en analysant ce verset, le contenu de la demande de Simon. Bon, maintenant, on espère que... Voilà, mais on n'en a pas la certitude.
Non, mais ça donne vraiment ça.
D'un point de vue, scripturaire, en tout cas, on ne peut pas dire que Simon a fait un pas en avant et qu'on est heureux qu'il fasse partie de la communauté de Samarie. Bah, voilà, on a plutôt l'impression que c'est l'inverse, quelque part. Quoi. Et alors, ce qui marque très fort les choses à mes yeux, mon interprétation à ce niveau-là, c'est la poursuite du texte. C'est-à-dire que, à partir du verset 25, il y a comme une cassure entre 24 et 25 qui indique à la fois la non-réalisation de la repentance attendue, la repentance que Pierre souhaitait, et la continuation de la mission apostolique. C'est comme si on avait tourné la page et que, pouf, on retourne vite à notre job, puisqu'on a perdu notre temps avec Simon, finalement, qui ne veut pas de pardon, il ne veut pas de salut, ben, qu'il se débrouille. Hein, voilà. Nous, on continue notre travail. Donc, on va s'intéresser au verset 25, qui clôture cette péricope, justement. Eh bien, on retrouve donc le binôme, Pierre et Jean. Et là, on découvre de nouveau, très intéressant, je trouve, que la continuation de leur mission apostolique a été en grande partie... rendre témoignage. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cette expression ? Ce n'est pas leur témoignage, je me suis converti tel jour à telle heure. Hein.
C'est plutôt l'idée qu'ils appuient tout ce qui a été dit par Philippe, tout ce qui a été fait, tout ce qui a été vu, tout ce qui a été reçu. Et ils ne font que de prouver, d'attester, de confirmer, plutôt confirmer. Ce que les Samaritains ont vécu avec Philippe.
Voilà.
Enfin, moi, je le vois comme ça.
Donc, il y a, dans rendre témoignage, il y a tout ce que tu dis là, avec peut-être en plus l'idée qu'étant deux apôtres proches de Jésus, du Jésus historique, ils rendent peut-être aussi témoignage à ce qu'ils ont vécu et vu avec Jésus.
On lit l'Évangile maintenant, ils racontent ce qui s'est passé avec Jésus. Oui.
Et puis le texte rajoute « et » annoncer la parole du Seigneur.
Oui.
Donc il y a aussi un enseignement scripturaire qui est donné, alors sur base de, sans doute, la mort, la résurrection, la Pentecôte, etc. Tout ça est aussi prêché, et alors on se retrouve donc de nouveau dans ce constat que le temps file, que les apôtres ont pris leur temps, hein, comme on avait vu autrefois dans d'autres textes. Ça ne s'est pas passé en une heure, tout ça. Ils sont peut-être restés des semaines à enseigner, à parler, à témoigner, etc. Donc ils prennent leur temps auprès des Samaritains, ce qui accrédite encore plus l'idée de la réception officielle des Samaritains. On prend soin des Samaritains. Ce n'est pas juste « voilà, vous êtes sauvés, clic-clac, je m'en vais ». C'est « on prend le temps de fonder, de poser un fondement à l'église de Samarie ».
Dans plusieurs villages, en plus.
Donc, oui,
c'est ça. Ils ont dû faire...
En tout cas, là, certainement, dans le premier propos, localement, là où ils étaient avec Philippe, Et tu as raison, dans un deuxième temps, dans la Rome, le retour vers Jérusalem, il faut dire la remontée, parce qu'ils sont plus bas que Jérusalem, la remontée à Jérusalem. Donc ici, on a bien des indications d'action dans la durée. Pierre et Jean ont pris le temps d'asseoir l'enseignement de Philippe, de lui donner du poids, ou du concret, si vous voulez, de le certifier avant de commencer leur voyage vers Jérusalem. Et dans ce retour, et c'est ça qui est quand même très intéressant aussi, on découvre que là encore, ils prennent leur temps. Ils n'y vont pas au pas de course, ils ne font pas un marathon pour faire leurs 50 bornes ou plus, hein, pour retourner à Jérusalem. Ils s'arrêtent dans chaque village qu'ils traversent, et dans chacune de ces bourgades, ils annoncent aux Samaritains le même témoignage, le même enseignement que celui qu'ils viennent de donner pendant des semaines à tel ou tel endroit. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans la démarche de Pierre et Jean, il y a non seulement l'accréditation de Philippe et de son travail, mais il y a aussi une sorte d'accréditation d'un témoignage biculturel. C'est-à-dire qu'il retourne avec Jérusalem avec un témoignage qui dit « Même les Samaritains croient au Messie ». Ce n'est plus juste une affaire de Juifs. Ce n'est plus juste une nouvelle voie dans le judaïsme. Ça va au-delà de la nouvelle voie. Et ça prépare donc bien ce qu'on disait tout à l'heure, l'englobement des païens, qui va suivre très vite dans le texte des Actes, où on va découvrir que des païens reçoivent, au même titre que les Juifs et les Samaritains ou les prosélytes, la même foi au Christ et le même baptême de l'Esprit. Donc quand même très très intéressant.
Est-ce qu'on peut y voir aussi une idée de consolidation ? Donc là, l'évangile a été annoncé et on consolide la foi des nouveaux chrétiens parce qu'on retourne dans les villages où probablement il y avait des gens qui se sont donnés et puis ils sont retournés chez eux, je ne sais pas, on peut imaginer. Mais il y a cette notion chez Pierre et Jean d'affermir ce qui est né de nouveau.
Oui. D'autant que, si tu te souviens bien, dans les textes qui avaient précédé, il y avait la mention de ceux qui, fuyant la persécution, avaient déjà annoncé la bonne nouvelle en Samarie. On ne sait pas où, mais en tout cas dans leur voyage, ils s'étaient empressés de partager l'évangile. Donc, en dehors de Philippe, d'autres avaient aussi témoigné.
Et j'ai déjà remarqué que certaines personnes sont venues au Seigneur et qu'on n'a pas pu leur offrir cette consolidation. On pense que parce que la conversion est arrivée, waouh, c'est parti. Ouais. Et c'est vrai que c'est l'Esprit qui fait tout. Mais l'Esprit de Dieu veut aussi que l'Église joue son rôle. Et ça se passe, mais parfois, c'est pas toujours facile. Et là, moi je vois cette idée de consolidation. On va raffermir ce qui est né.
Qu'on reverra d'ailleurs avec l'apostolat de Paul, hein, c'est ce qu'il fait. Il reste souvent plusieurs mois au même endroit avant de quitter, et il y revient. Donc dans ses tournées, il repasse par les endroits où il a fondé des églises. Donc l'idée de toujours de consolider, effectivement. Et peut-être d'autant plus précieusement auprès des Samaritains qui partagent une grande partie des textes bibliques du judaïsme. Donc, comment leur faire toucher du doigt ce qu'ils ont, peut-être ce qui leur manque, peut-être, par l'absence de textes qu'ils, eux, ne vénèrent pas comme faisant partie de la révélation. Comment percevoir Jésus s'il leur manquait une partie, tu vois, de l'Ancien Testament. Ouais, je pense qu'ils ont pris leur temps, effectivement, quoi. C'est dommage que Luc ne nous dise pas combien de temps tout ça a duré, mais apparemment un certain temps.
À l'époque, il n'y avait pas les évangiles, donc le fait d'avoir deux témoins oculaires, ben, ils ont pu leur raconter l'évangile, tu vois, ils ont pu raconter tout ce que Jésus, donc ça a pris du temps. Mmh. Parce que, bon, apparemment, je vais dire, notre Philippe n'est pas un témoin oculaire.
Il a peut-être connu Jésus,
voilà.
mais en tout cas, il n'était pas dans les disciples qui suivaient Jésus.
Voilà. Donc, le fait de tomber sur des gens comme ça, attends, ils vont nous raconter. Ben, nous, c'est facile, on ouvre la Bible, on a quatre fois les évangiles, mais eux, ils n'ont rien à cette époque-là.
Pas de texte.
Comme pas de texte. Hein. Donc, c'est normal
qu'il alors, soit resté. Je me suis aussi dit, peut-être qu'au regard de ce qui suit dans le texte qu'on n'a pas étudié, peut-être que l'affermissement dont tu parles, la consolidation, était nécessaire parce que Philippe allait partir. Philippe va recevoir une autre mission. Et d'ailleurs, il ne reviendra pas en Samarie de sitôt, quoi. Donc voilà, il a fait un job en Samarie, mais peut-être ça méritait un label, une consolidation par les apôtres, et peut-être aussi une garantie que l'Église de Jérusalem s'occupera de la Samarie, vraisemblablement. Voilà, je pense qu'on a bien creusé le texte. Alors bon, j'espère du moins qu'on ne se trompe pas trop.
J'y vois vraiment l'idée de prendre soin d'eux. Et l'Église, elle est là en principe pour prendre soin de tout le monde. Pas simplement pour du blabla, mais est-ce que tout le monde trouve ce dont il a besoin pour grandir ? Et c'est pas évident, hein, parce que tout le monde grandit à une vitesse différente, à un stade différent. Mais est-ce que l'Église apporte ce besoin que nous avons d'être consolidés ? Oui. Parfois oui, parfois non. L'Église peut passer par des moments où on ne le voit pas, où on n'y pense pas. Mais ouais, ça me touche, ça, je dois dire. Et comme tu l'as dit, c'est vrai, tu me fais penser à Paul qui ne voulait jamais partir d'une Église sans qu'elle soit stabilisée, assurée.
Et en ayant nommé des gens.
D'où l'importance, quoi. Et on est peut-être naïf de croire que parce qu'on se donne au Seigneur, tout roule et tout va aller. Ça ne fait que de commencer. Mais en même temps, tout le monde n'a pas le don soit d'évangéliser et de consolider. On a besoin de tous les dons dans l'Église pour apporter ça.
Voilà, on peut peut-être terminer par un petit tour sur des pistes. On vient d'en citer une, hein, prendre soin, la consolidation, etc. Est-ce qu'il y en a d'autres à vos yeux indépendamment de ce que j'ai dit tout à l'heure, par exemple, hein, quand je parlais de la simulation de la conversion. Faut qu'on ait un peu parfois les yeux en face des trous. Alors, il arrive que cette attitude-là soit démasquée par une révélation divine, comme c'est le cas avec Pierre maintenant. Mais on a aussi, alors c'est le côté horizontal des choses, on doit avoir les yeux ouverts pour voir si ce que les gens disent qu'ils sont correspond aux fruits qu'ils montrent. Ça, c'est quand même le béaba, quoi. Et parfois, tu vois bien qu'il y a des gens qui te parlent d'humilité puis qui n'ont rien, une once d'humilité dans leurs attitudes ou leur manière de diriger ou de prendre le pouvoir dans la relation. Voilà. Mais voilà, y a-t-il d'autres alors pistes qui vous intéressent ?
T'as posé des questions qui sont, enfin, on n'en a pas parlé, mais est-ce que vous avez déjà répondu de cette manière ? Est-ce facile à vivre et accepter ?
Je pense qu'on aurait tous difficile avec ça.
Punaise. Oui, c'est compliqué.
Même si tu es repris à juste titre. Est-ce que c'est si simple d'effacer ton orgueil et de reconnaître ?
Je pense que c'est
pas facile.
Non, ouais. Celui qui le reçoit, tu vois, le fait de le dire, ben, ça peut encore. Bon, allez, je peux encore le faire. mais celui qui va le recevoir, même si tu le fais avec amour, faut vraiment une grande preuve d'amitié, hein, comme il est marqué dans les proverbes. Hein. C'est un ami qui te reprend. Hein.
Parce que c'est même pas le fait de dire « Écoute, je suis pas d'accord avec ton action, là. Tu devrais réfléchir. » Mais ici, c'est lui dire
« C'est copier, ça.
Je pense que tu n'es même pas chrétien.
On
peut traduire ça.
Va
un peu dire ça à quelqu'un dans l'Église si tu en as la conviction.
Ouais. » Évidemment, ici, Pierre, il étaye les raisons pour lesquelles il arrive à cette conclusion. Mais même, je dis même ça, ça ne change pas le bonhomme, apparemment.
Est-ce utile ? Oui, quelque part il faut dénoncer quand ça ne va pas. Mais est-ce qu'on arrive à conscientiser l'autre, tu vois ? Est-ce qu'on arrive à se rejoindre ? Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas se remettre en question, hein, on est bien d'accord là-dessus, hein, les gens. Enfin,
comme si mon, son fonctionnement était tellement ancré dans...
Ouais. Donc c'est pas facile, c'est une bonne question, hein. C'est une bonne question.
Mais en même temps, l'apôtre Jean, peut-on dire que l'apôtre Jean a préféré choisir le plus judicieux, c'est-à-dire préserver l'Église de l'erreur? C'est peut-être dur d'aller dire au bonhomme, écoute, ça ne va pas, mais est-ce que c'était aussi une forme de protection pour dire à ceux qui étaient là, attention, ça ne marche pas comme ça. Hein.
Oui, ça aussi.
Ne croyez pas que...
Il faut être obligé de...
Il faut vraiment... C'est aller... L'Évangile, c'est nouveau à cette époque, et il faut que ça tranche. Il ne peut pas y avoir de doute.
Oui. D'autant plus que ce, gars-là était influent vis-à-vis des gens qu'il côtoie dans l'Église. Ouais. C'est d'autant plus grave.
J'ai l'impression qu'il n'était pas simplement entre Pierre et Simon, mais qu'il devait y avoir d'autres personnes. Et donc, il faut que la vérité soit percutante pour tout le monde. Waouh ! Ah oui, mais le Seigneur, attention, c'est pas ça non plus. Et ça, c'est... Alors, je ne suis pas du tout partisan pour avoir tous des pierres dans l'Église, mais d'un autre côté, est-ce qu'on est assez conscient qu'il en faut des pierres dans l'Église pour, parce qu'il peut y avoir des déviances. Et il faut que l'Église sache à un moment donné que déviance est déviance, et pas la ligne droite. Et pourtant, je ne prêche pas pour avoir des hommes... qui tranche dans l'air avec le couteau, hein, et qui sépare en deux. Mais Pierre l'a fait. Et c'était probablement plus profitable.
Ah oui. Oui, ça a évité des erreurs.
Ouais, c'est un peu la même logique que celle qu'on avait vue avec Ananias. Ouais. Il vaut mieux c'est la mort d'Ananias que la mort de l'Église.
Oui, c'est ça.
En gros.
Ouais.
Bon, c'est assez court comme leçon.
Mais même sans aller trop aussi loin, moi qui vais un peu côté catholique et protestant, mais je trouve pas qu'on prend vraiment soin, qu'on se respecte aussi bien d'un côté que de l'autre. Encore dimanche dernier, et pourtant c'est l'église où je vais le plus maintenant, qu'on fait l'évangélisation de rue et compagnie, là, rue Denis, et puis j'entends avec la Sainte-Seine. Et surtout, ne croyez pas que ça, c'est la présence réelle du Christ. Et pour, n'écoutez pas ces avis-là, ils sont un peu à côté de la plaque. C'est autant dire textuellement ça. Bon, et je pourrais citer, même à Michoud, quand on a fait le petit groupe de partage, de cellules de maison, moi, je ne veux pas que dire qu'un a raison et l'autre tort, mais partager sur les différences. Et donc, j'avais partagé, je sais bien, sur les charismes, sur Marie, rien que ces deux points-là, gros tollé d'office, c'est comme si, niette, on ne veut pas entendre, quoi, la différence. Et pas pour se prononcer d'un côté ou de l'autre, rien que partager pour s'accepter, pour s'aimer dans les différences. Ben, moi, je ne sens pas beaucoup... Pas plus du côté catholique, hein, pareil. Hein. Comment est-ce que tu peux aller chez les protestants,
Ça voudrait dire qu'on devrait accepter les erreurs, tu vois, et les accréditer.
Mais parce que vous pensez que c'est une erreur, mais les catholiques, ils pensent que vous êtes dans l'erreur, pareil, avec des arguments bibliques.
Nous sommes tous dans l'erreur.
Hein, avec des arguments bibliques
de part et d'autre. Ouais. Hein. Bah, quand tu lis la Bible, en tout cas, en ce qui concerne le corps de Christ...
À l'intérieur même, enfin, du catholicisme
et même
du protestantisme, il y a de telles variantes, il y a de telles divergences de lecture à certains moments. Parce que justement, les textes sont ce qu'ils sont. Et comme nous ne sommes pas tous des férus de linguistique et... Voilà. Comment tu peux comprendre ta version française du texte biblique quand tu méconnais totalement et le grec et l'hébreu? Tu peux être sûr de pas grand-chose. Voilà. Donc tu fais confiance à l'enseignement ou à la tradition que tu as entendue. Moi, je trouve que c'est compliqué. Mais de là à démolir systématiquement l'autre...
Soit qu'on n'en parle pas, hein, en se disant l'essentiel, c'est la même foi au Christ, hein, et d'essayer de répandre cette bonne nouvelle du salut, soit si on en parle, qu'on accepte, voilà, que ce soit, voilà, qu'on accepte les différences. Quoi.
Pour moi, tu vois, le temps d'un vrai dialogue interreligieux n'est pas encore arrivé.
Ben non.
Voilà. Ça, c'est clair.
Tu sais que je vais d'un groupe interconfessionnel. Il y a des athées, des musulmans, des protestants, des catholiques. Dans l'ensemble, on s'accepte mieux là qu'au sein des églises chrétiennes, quoi. Mmh. Je m'entends mieux avec athées et francs-maçons, hein, et avec d'autres.
Bon, j'espère que tu t'entends un peu avec nous.
Dans l'acceptation, hein.
Oui.
C'est autre chose.
Mais justement, moi j'ai l'impression que plus on avance dans notre modernité, moins on est capable de partage.
Oui.
Mais pour des tas de sujets, pas seulement religieux.
Oui.
Tu veux parler de sexualité, mais tu vas te battre avec certaines personnes. Mm-hmm. Parce qu'il y a un manque de capacité de dialogue aujourd'hui dans le tissu social qui est effrayant. Oui. Donc c'est qui a le monopole, qui a le droit de dire n'importe quoi, et celui-là, il est autorisé à dire ce qu'il pense. Sous-entendu, l'État, la trois quarts du temps. Ben non. Mais parce qu'on n'a pas éduqué les gens au dialogue et au respect. Ne serait-ce que ça. Maintenant, moi j'ai eu de très chouettes amis prêtres dans le passé. On se respectait vraiment. Mais on était capable de dire nos différences, c'est ça. Moi je ne crois pas ce que tu crois. Est-ce que c'est pour ça qu'on doit se déchirer, se battre et s'entretuer ?
Ce que tu dis, hein, enfin, je t'aime, hein, tu le sais, enfin, j'espère que tu le sais, mais ce que tu dis, c'est que toi, tu éprouves des difficultés à ce qu'on te dise le contraire. C'est toi qui es choqué de ce que l'autre personne dit.
Non.
C'est pas l'autre qui ne t'écoute pas.
Non, c'est pas ça.
Ah ben
non,
si.
L'autre qui ne s'écoute pas, il ne s'accepte pas.
Non, parce qu'elle dit, bon, ben, il a dit ceci, ben, c'est, ne vous y trompez pas, il n'y a pas le corps de Christ dans le pain qu'on va distribuer, il n'y a pas le sang de Christ dans...
Oui, mais la manière dont il dit, c'est que l'autre est dans l'erreur. Hein. Le catholique est dans l'erreur.
Entre nous soit dit, je ne trouve pas que ce soit d'un point de vue liturgique très, très authentifiant, très chouette de commencer par la négation.
Oui, mais enfin, ici c'est... Oui,
est-ce
oui,
que
d'accord,
ça a sa
oui.
place dans un... Dans
oui, c'est ça, on pourrait le présenter différemment. Oui, c'est juste.
Oui, que tu fasses ça dans un enseignement plutôt théo quelque
ouais,
chose.
C'est juste.
Où tu veux mettre les points sur les i, sur les dogmes, ok.
J'entends souvent ce raisonnement-là dans l'Église, où on va... quand c'est présenté, on le présente de manière négative. Effectivement, on dit, il n'y a pas un, tu l'entends à peu près tous les dimanches, on le présente de manière négative. Quoi. On dit, non, il n'y a pas le corps.
Est-ce que ce n'est pas plus simple de dire ce que l'Évangile dit ?
Ben oui.
Oui, c'est ça.
Faites ceci en mémoire de moi, jusqu'à ce que je vienne.
Pas de
Je ne vois pas l'intérêt, au moment d'une célébration, de commencer à faire une espèce de leçon de morale. Non, tu vois ce que je veux dire ? Ça n'a pas sa place dans la situation. Que tu mettes en garde les gens pour qu'on ne prenne pas la Sainte-Cène n'importe comment, ça, ok. Et même là, je me méfie parce que le texte d'1 Corinthiens 11 est utilisé à tort et à travers les trois quarts du temps.
Ah oui, là je suis bien d'accord avec toi.
Mais le but, c'est le partage, c'est le souvenir, c'est pas de dire les autres ont tort.
Oui, ah non, mais c'est pour bien montrer que le sacrifice de Jésus est un sacrifice, tout est accompli, tu vois. Il n'y a plus... C'est une fois pour tout. Il ne faut pas renouveler. C'est quand même quelque chose d'essentiel.
On parle mémorial.
Oui, c'est bien ça.
Ce n'est pas un souvenir, c'est un mémorial.
C'est un mémorial,
donc
oui.
C'est une actualisation des actes sauveurs du Christ.
Une actualisation.
Comme la Pâque.
C'est intéressant.
Ça risque de devenir une conversation assez embêtante.
Mais c'est intéressant.
Parce que la langue du sanctuaire chez les catholiques, il faut savoir, reconnaître, que ça veut dire qu'elle est allumée quand le corps de Christ est dans le tabernacle. Parce qu'il est présent là, par le sacrifice, par le miracle de la transsubstantiation. Et là, les catholiques doivent reconnaître que c'est votre doctrine. Et nous la respectons. On ne va pas commencer à la démolir et lancer des pierres dessus.
Non.
Mais
on a
nous,
droit
en
de,
que
on a le droit de donner aussi
en tant que protestant, dans une église protestante, c'est sûr que vous devez entendre de temps en temps que nous ne sommes pas sur le même pied et sur la même longueur d'onde que vous. Mais ça ne veut pas dire qu'on vous jette des pierres et qu'on ne vous aime
c'est
pas.
C'est la manière de le dire.
Ça, c'est possible.
Oui. C'est pour ça que je te dis que c'est plutôt mal placé dans une célébration
publique.
Surtout si tu sais qu'il y a des catholiques présents par-dessus le marché.
Mais d'un autre côté, on demanderait aux trois quarts des catholiques dont je suis issu, qu'est-ce que c'est que la transsubstantiation ? Il y a bien peu de personnes parmi les catholiques qui seraient capables
oui.
d'expliciter un peu ça.